CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
À l'émission aujourd'hui, le communautaire à bout. Mes invités en studio là, ce midi sont toutes et tous à bout. Andrianadi du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, Marie-Josée Avril de la Porte du Passant, Mathieu Brochu de la Corporation de développement communautaire de Pierre de Sorel, Dominique Gosselin avec ses nouvelles lunettes d'Action Logement Pierre de Sorel, David McDermott, je suis sûr qu'il est content que je l'ai souligné, hein, Dominique, oui. Hein? David McDermott de la Maison de Jeunes L'Air du Temps et Nicole Teasdale de Justice Alternative. Pierre de Sorel, je leur parle après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Chez Climatisation Deschenaux, il y a du nouveau. Vous pouvez maintenant opter pour un système de climatisation chauffage Hitachi avec subvention disponible. Des thermopompes pour un climat canadien qui peuvent chauffer jusqu'à moins 30 Celsius selon le modèle. Prenez rendez-vous pour une estimation gratuite. Climatisationdeschenaux.ca.
Mardi dans Valérie, l'après-midi dès 15h30, on ouvre la boutique de souvenirs avec Jean-Pierre Gravel. On discute du Canadien avec le journaliste Richard Labbé et je parle à une jeune sensation de La Voix 2026, Jade Mathieu. Soyez là.
Valérie, l'après-midi. Une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton, de la ferme du Barbu, Boucherie Royale et du William Henry.
Cuisse ou poitrine, casse-toi pas le poulet, c'est au choix du rôtisseur. Seulement $10.95 chez Saint-Hubert à emporter ou au service au volant. Taxes en su. Détails au saint-hubert.com.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, les organismes communautaires disent vivre, dans Pierre de Sorel, un sous-financement préoccupant. Ils le chiffrent à 9,4 millions de dollars. Ils soumettent que ça les empêche de remplir pleinement leur mission. C'est pas compliqué. Ils sont, comme leur campagne le proclame, à bout. Alors, avec moi en studio ce midi, Ando Andrianadi du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. Salut, Ando.
Bonjour, Sylvain.
Marie-Josée Avril de La Porte du Passant. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Il y a aussi Mathieu Brochu de la Corporation de développement communautaire de Pierre de Sorel. Bienvenue.
Bonjour.
Dominique Gosselin, d'Action Logement, Pierre de Sorel. Allô.
Bonjour.
David McDermott de la Maison de Jeunes L'Air du Temps. Bon midi.
Merci, bonjour.
Et Nicole Teasdale de Justice Alternative, Pierre de Sorel.
Bonjour.
Bonjour, Nicole. Commençons par faire le tour. Ça, ils ne voulaient pas pantoute. On s'est chicané avant d'entrer en onde, là. C'est pogné dur, là. Commençons par faire le tour de vos organismes, parce qu'ils disent « Non, nous autres, on représente un collectif. On n'est pas là à titre personnel ou à titre d'organisme. Strictement, on est là pour représenter tout le communautaire. » J'ai dit « C'est correct, mais on commence pareil par parler de vous, parce que j'ai la tête dure. » Alors, commençons par le CAB, Ando. Plusieurs services chez vous au CAB, hein?
Oui, définitivement. On a une quinzaine de services au CAB, dont la popote roulante, le transport médical, le programme défi cancer, la banque alimentaire qui est surtout connue par le public, le service de cuisine collective, les déjeuners écoles du CAB, la clinique d'impôt qui se déroule en ce moment mais suspendue à cause du mouvement Le communautaire à bout, le bouton panique et bien d'autres. Là.
La clientèle desservie par les différents services chez toi au Centre d'action bénévole, tu la chiffres à combien cette clientèle-là? Combien de monde est desservie par le CAB, tu penses?
Au fond, dans le dernier rapport annuel, on parle de 3000 personnes et plus. On a déjà eu un moment où on desservait 10% de la clientèle à MRC, donc en moyenne 5000.
Hey, c'est beaucoup. Et combien de bénévoles au Centre d'action bénévole?
On a 250 bénévoles au Centre d'action bénévole actuellement.
Marie-Josée, c'est la plus réfractaire à parler de son organisme à elle, mais tu vas le faire pareil. Alors, la Porte du Passant, c'est bien plus que la seule cafétéria que ce fut là, au départ. C'est, C'est ça, mais c'est beaucoup d'autres choses que ça. Dresse-moi le portrait de ce que c'est la Porte du Passant en 2026.
En fait, c'est un centre de jour, un centre de nuit, un centre de jour pour la cafétéria communautaire, aide alimentaire, activités, inclusion des personnes et tout. On a le halte de répit aussi, climatique maintenant, parce que les gens qui vivent des situations d'itinérance peuvent venir autant de jour et de nuit, et l'hébergement de nuit... pour accueillir des gens en situation d'itinérance, ils viennent dormir avec nous. Puis bientôt, on va avoir un deuxième bâtiment aussi là, pour les accueillir différemment et plus proche dans leurs besoins à eux autres.
D'accord. Combien de personnes vous rejoignez à la Porte du Passant, tous services confondus?
C'est dur. 500 à peu près.
500, ça veut dire 500 personnes,
500 personnes
annuellement, oui. Mais qui sont des réguliers, appelons ça comme ça.
J'ai des réguliers, j'ai à peu près 300 membres par année qui renouvellent leur carte de membre, mais on a beaucoup de personnes maintenant en situation d'itinérance qui renouvellent, ben en fait, qui prennent pas leur carte de membre, même si c'est à 5 $ par année. Là. Eux autres, juste à eux en situation d'itinérance, là, on a 230 différents qui sont venus dans nos services dans l'année.
Nombre d'emplois rémunérés à Port-du-Passant.
38 employés.
38! Ça, est-ce que vous êtes parmi les plus gros organismes en termes de personnel rémunéré?
Il me dit que oui, je le croirais, mais c'est surtout la fête du 24-7.
Moi, je le croirais aussi. Je pense que Mathieu a peut-être une précision.
C'est dans les très gros organismes du territoire, là, en termes de nombre d'employés, là, parce que c'est sûr que tous les organismes qui sont en 24-7 ont généralement beaucoup plus d'employés du fait qu'ils doivent couvrir trois quarts de travail.
C'est une excellente explication que tu nous donnes là, puis auquel il faut ajouter à ses employés, de ses salariés, des bénévoles, je présume, à la Porte du Passant?
Oui, on a des bénévoles, surtout pour le niveau de la cuisine, parce qu'évidemment, vu que c'est un milieu de vie, puis les gens viennent, surtout les gens en situation d'itinérance, ça prend des gens formés et professionnels pour répondre à ces gens-là. Fait que le bénévole, on a à peu près 40 bénévoles, mais ils viennent plus pour le niveau de la cuisine et non pas dans l'accueil, évidemment, parce que c'est trop spécifique leurs besoins.
Mathieu, à la Corporation de développement communautaire, il y a ceci de différent, puis là tu me le dis si je suis une patate complètement, là, que ce ne sont pas des services à la population que vous offrez, ce sont des services aux organismes.
Exactement, c'est un regroupement d'organismes. D'abord, avant tout, on offre dans nos volets d'action, c'est un soutien aux organismes par la concertation, l'information, la formation. La promotion, la représentation comme aujourd'hui, le travail en partenariat, la recherche, on a tous ces volets-là. Il y a le volet information, représentation, qu'on est peut-être plus qu'on vise un public plus large que pas nécessairement seuls les groupes communautaires, mais notre soutien quotidien, c'est un soutien aux organismes. Puis les organismes d'action communautaire, c'est varié. Je sais pas si tu veux que je me lance dans qu'est-ce qu'un organisme communautaire.
Oui, avant, dis-moi donc, il y en a combien d'organismes membres de la CDC?
On a une soixantaine de membres à la CDC, de membres réguliers, qu'on parle des membres votants qui font soit de l'action communautaire autonome, de l'action communautaire ou des entreprises d'économie sociale.
Alors, tu es en train de me décrire le statut varié des organismes, là.
Exactement, parce que les
membres... C'est pas toutes des OBNL au sens strict.
C'est toutes des OBNL au sens de la loi, mais on a la très grande majorité de nos membres, c'est des organismes d'action communautaire autonome. Dans le fond, on a 8 critères pour être un organisme d'action communautaire autonome. Là, je me lancerai pas dans un cours sur l'ACA qu'on appelle.
Ben, donne-nous-en un résumé. Dans le fond,
d'abord, avant tout, ce sont des organismes, des OBNL, qui sont enracinés dans la communauté, qu'on entretient une vie associative et démocratique. On est libre de déterminer notre mission, nos approches et nos orientations. On est constitué à l'initiative de la communauté. Ça aussi, c'est hyper important. On est là pour répondre aux besoins de la population, de notre milieu. Puis c'est ce qui a fait que les organismes ont été créés. Puis on le voit, dans notre région, on a beaucoup d'organismes qui ont été créés il y a très longtemps. Puis il y a aussi les vagues aussi pendant qu'il y a eu des crises économiques, des crises sociales. Bien, il y a eu un boom d'organismes communautaires à ce moment-là parce qu'il y avait un besoin dans la communauté.
Est-ce qu'on est une des régions québécoises les mieux pourvues en termes d'organismes communautaires? J'ai cette impression-là. Est-ce que c'est vrai?
En nombre absolu, je dirais pas parce qu'il y a des régions, mais au prorata de notre population, assurément qu'on est dans les organismes. C'est sûr qu'on est une région aussi qui a vécu plusieurs crises économiques.
Les fermetures d'usines, tout ça.
Exactement, qui ont eu de l'impact. Puis dans notre CDC ici, c'est la troisième CDC au Québec. Donc, après les CDC des Bois-Francs, ça a été beaucoup le centre du Québec. Puis nous, on est la troisième CDC. On va souligner nos 40 ans l'année prochaine.
Combien êtes-vous d'employés à la Corporation de développement communautaire?
On est 5 employés à la CDC qui sont là. On a 3 employés qui sont permanents là, avec notre financement à la mission qu'on va parler tantôt. Puis on a des projets qui permettent d'avoir des soutiens supplémentaires. Puis on est 5 actuellement.
Et chez vous, il y a aussi du bénévolat, ne serait-ce qu'au CA, les membres du conseil d'administration, ce sont des bénévoles, ils ne sont pas payés pour ça?
Non, exactement. Nos principaux bénévoles, ce sont nos membres du conseil d'administration, mais nous, on est plus là pour outiller nos membres, ben, justement, les aider dans le recrutement de bénévoles. On le fait beaucoup avec le centre d'action bénévole, mais des fois, les membres viennent voir, puis on partage leurs besoins. Particulièrement, là, c'est ce que les membres nous appellent beaucoup, c'est pour trouver des bénévoles au sein du conseil d'administration, avec des expertises, des fois plus précises, particulièrement les groupes qui sont 100% bénévoles, ben, eux cherchent des fois des expertises plus particulières dans leur conseil d'administration pour aider l'organisme.
Dominique Gosselin, parle-moi d'Action Logement, Pierre de Sorel. De quelle manière vous mettez-vous en action pour le logement? C'est quoi votre quotidien chez Action Logement, Pierre de Sorel?
Bien, en fait, nous, on fait de la défense collective des droits. Donc, en gros, notre job devrait être de faire beaucoup de trucs, là, global, provincial, tu sais, de dénoncer, de tu sais, en fait...
T'as utilisé le conditionnel, t'as dit « devrait être
ouais,
notre job », pourquoi « devrait »
Ben, parce qu'en fait, tu sais, juste aussi pour ramener des raisons pour lesquelles on est à bout, c'est que je suis maintenant, depuis janvier, aussi coordonnateur de l'ODDS du Richelieu, l'Organisme de défense des droits sociaux. Donc, pour le même financement, étant donné qu'on n'est pas capable d'engager les 3 ou 4 personnes à temps plein qu'on aurait besoin, ben finalement, je suis devenu 2 demi. Je suis demi Action Logement et demi organisme de défense des droits sociaux pour pouvoir garder les 2 employés qu'on a à l'emploi. Fait que je me sépare
alors,
en 2.
Alors, il y a peu de salariés. Là, ça fait 3, ça?
Ouais,
toi puis 2 autres?
Un et demi chaque, c'est ça.
OK.
Fait que, c'est moi le demi. C'est ça. Fait que quand je parle au conditionnel, c'est que évidemment avec toutes les problématiques vécues en logement, ben on doit quand même rencontrer plusieurs milliers de personnes. Là, je réponds à plusieurs milliers de personnes par année, même si officiellement, c'est pas ma job, pour lequel je suis payé officiellement, mais on n'a pas le choix de le faire. Là. Il y a une petite partie que oui, mais notre petite partie est beaucoup plus développée.
Alors, on se réfère beaucoup à vous, oui, Action Logement, Pierre de Sorel. Il y a une tonne de locataires qui vous appellent. Là,
moi, je suis comme le mécanicien là, que tu rencontres sur le coin de la rue, puis tu as un problème avec ta voiture. Moi, c'est un problème. Moi, je réponds à tout le monde partout, au restaurant. Tout le monde a une question, fait que c'est toujours. Oui, c'est ça.
Il y a des bénévoles chez vous?
Ben oui, il y a des bénévoles. Oui, on a un conseil d'administration, mais on a beaucoup de militants parce que nous, pour faire de la mobilisation, pour faire de la manifestation, ça nous prend des gens. Tu sais, je pars pas tout seul avec ma petite pancarte ou avec aller rencontrer des ministres ou d'autres tout seul. Fait qu'on y va avec une gang, puis c'est eux qui, par nos cafés-rencontres, là, qui viennent nous voir, on les éduque, puis en même temps, ils savent pourquoi qu'ils se déplacent avec nous, pourquoi ils doivent se défendre, en fait.
Je me tourne du côté de David McDermott. T'as la maison de jeunes de Tracy, ça s'appelle L'Air du Temps. Une grosse équipe ou une petite équipe?
On est 5 employés actuellement. Pardon. On est 5 employés.
5 employés pour desservir une grosse clientèle ou...
Avant l'incendie à Banan-Garriépi, on touchait plus de 100 jeunes quotidiennement. Depuis l'incendie, on en a un petit peu moins. On a une 20aine de membres actifs qui participent à nos activités, plus une 15aine d'autres membres là, qui gravitent autour, qui viennent ici et là dans nos locaux.
Oui, tu parles de Banan-Garriépi parce que cette maison de jeunes à Tracy, qui était autrefois sur le chemin Saint-Roch, où est maintenant la maison L'Ancrage, exact, que tu connais un petit peu, Mme Teasdale, elle est désormais au centre culturel. Alors, la proximité de Banan-Garriépi, ça vous aidait, ça?
Absolument. On était dans la même cour pratiquement.
Si tu avais à décrire, David, la mission de la maison, qu'est-ce que tu en dirais?
Ouais, en fait, on est un milieu de vie pour les 11 à 17 ans qui accompagne les jeunes dans leur globalité au quotidien pour faire de eux des soyez actifs, critiques et responsables.
Beau résumé. Nicole, merci de ta patience. Parle-moi de Justice Alternative, Pierre de Sorel. Vous faites quoi chez Justice Alternative,
Alors,
Pierre de Sorel?
Nous, on travaille, on intervient avec des personnes qui ont contrevenu à la loi, qu'ils soient jeunes ou adultes, et avec les personnes victimes, notamment dans ce qu'on appelle une démarche de réparation des torts qui sont causés. On a aussi un volet de prévention parce qu'on trouve important. On s'est rendu compte que parfois, les gens avaient des démêlés avec la justice parce qu'ils avaient des situations conflictuelles, qu'ils recouraient à la violence. Alors donc, notre volet prévention, c'est de justement outiller les gens à bien résoudre leurs conflits pour éviter, premièrement pour bien s'entendre, mais aussi éviter des démêlés avec la justice. Et c'est pour ça qu'on a aussi un service de médiation citoyenne pour accompagner les gens qui le souhaitent dans une démarche de médiation.
On parle de combien de personnes qui, chaque année, profitent de vos services?
Je dirais, si on ajoute, parce qu'on est très présent dans les écoles primaires, là, c'est sûr que nos statistiques montent, parce qu'on rencontre, on fait la tournée des classes de sixième année, on rencontre près de plus de 400 élèves. Mais je dirais, quand on regarde notre volet médiation citoyenne, c'est environ 40 demandes que l'on reçoit par année. Au niveau des personnes contrevenantes, c'est une centaine de personnes et à ça, une centaine de personnes victimes.
Et combien êtes-vous pour livrer ces services-là?
Bien, c'est une des raisons pour lesquelles on est à bout, cher Sylvain, parce que comme dans bien des organismes, on est une petite équipe, on est 3 personnes.
Il y a des bénévoles qui s'ajoutent à ces salariés?
Il y a des bénévoles, bien sûr, on le met tantôt au conseil d'administration, puis je dois dire que lorsqu'on parle de réparation, quand les jeunes ou les adultes ne peuvent pas réparer directement la victime, ils se tournent vers la communauté. Alors, je regarde mes collègues du communautaire ici et les autres qui sont sur le stationnement de la maison de jeunes qui vont intégrer, accueillir les personnes contrevenantes pour leur permettre de réparer les torts causés. Alors, nous, on les considère comme étant non au-delà des partenaires, mais des bénévoles actifs dans notre mission.
Je fais une précision. Tu parles du stationnement de la maison de jeunes,
oui.
Parce qu'au moment où nous tenons cette émission, nous faisons cette émission, il y a des gens qui sont rassemblés à la maison de jeunes, sur la pelouse, mais la pelouse n'est pas très visible, là, sur le terrain en face, et puis il y a une soupe.
Il y a soupe café qui est servie à la maison de jeunes, là, juste en face des studios de CGSO, puis il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui sont présentes ce midi pour appuyer le mouvement.
En effet, on les voit, elles sont nombreuses, les personnes. Vous êtes tous les 6 à bout. Êtes-vous tous les 6 en grève? En grève 11 jours ou c'est pas tous? Qui répond? Ando?
Ben, pour ma part, au fond, au sein du conseil d'administration et de l'équipe, on avait voté pour le mandat de grève en début d'année au retour des fêtes. Donc oui, on est en grève. Ceci dit, il y a 2 services qu'on a jugé bon et important de le garder en marche. Donc on parle du transport médical et du programme des cancers, au fond, qui vient en aide aux gens qui sont atteints de cancer, qui ont des chimiothérapies, radiothérapies, des fois à l'extérieur. Donc, c'est important pour nous de le garder.
Marie-Josée, la porte du passant, ça peut-tu être en grève, ça? Je pense aux gens qui sont en situation d'itinérance. Vous avez osé?
On a osé. De jour et de soir, on est fermé jusqu'à 10 heures le soir. À 10 heures, par contre, là, j'ai des intervenants qui viennent pour les situations d'urgence de ceux qui sont à la rue présentement. Puis, on est beaucoup en partenariat avec les policiers de la région quand il trouve quelqu'un à la rue, en le fond. Fait que oui, on a gardé que le service d'urgence de nuit. Encore là, pourquoi qu'on est à bout, c'est qu'on est financé juste pour 10 lits. Bon, on a souvent 28 à 30 personnes qui viennent dormir.
Ça, on va y revenir.
Mais c'est juste pour dire...
C'est crève-cœur, j'imagine, cette grève-là. Là. T'es très proche là, de ces personnes en situation d'itinérance, de ta clientèle plus générale.
Mais nous, on a un comité consultatif des membres réguliers et des membres qui viennent héberger à l'hébergement d'urgence. Puis, on a été consultés dès janvier avec eux. On a fait plusieurs rencontres avec eux pour savoir comment, s'ils pouvaient être localisés sur leur famille, à la maison. En fait, ils n'ont pas de maison, mais soit sur les parents ou les frères et sœurs. Fait qu'il y en a beaucoup qu'on était capables de
Vous avez pris des précautions.
Des précautions, mais en fait, c'est même eux qui nous ont donné le gosse d'appuyer la grève parce qu'ils comprenaient tous les enjeux là, qu'on vivait, parce qu'on est très transparents. On fait souvent des conférences avec eux. Tout ce qui est public, on le publie avec eux. On le regarde, on a un grand écran. Fait qu'ils sont vraiment outillés. En fait, ils ont même aidé à ce qu'on prenne le choix d'y aller puis d'y aller en grève, là. Oui.
David, êtes-vous en grève, maison de jeunes? C'est totalement fermé?
Oui, fermé complètement. Par contre, on invite nos membres à s'impliquer dans les différentes actions. C'est parce que notre mandat aussi là, de rendre les jeunes citoyens actifs, critiques et responsables. Donc, la mobilisation comme celle-ci, ça permet aux jeunes d'apprendre sur la démocratie et tout.
Dominique, en grève complète?
Ben presque. En fait, c'est que nous, on est quand même dans la période des avis d'augmentation.
Ouais.
Donc, en fait, on fait un suivi, là, surtout sur les cas d'urgence qu'on va rappeler, mais dans une partie de la semaine spécifique. Mais la porte est barrée, là, on ne répond pas officiellement aux gens comme tels.
Nicole?
Oui, en grève. Puis je dois dire, c'est vrai, c'est crève-cœur. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des groupes qui ont décidé de peut-être pas être en grève, mais d'avoir une modulation de service, des perturbations.
Mathieu peut peut-être nous donner là, des précisions là-dessus, justement.
Bien,
là. C'est quoi l'état de situation?
C'est
là?
Très variable. On a une quinzaine de groupes qui embarquent dans le mouvement avec une grève variable. Là, qu'une réduction de service soit totale ou partielle. Puis on a beaucoup de groupes qui sont solidaires du mouvement. mouvement. C'est comme la CDC, notre volet, c'est de soutenir les organismes. Je pense que dans les 9 jours du mouvement communautaire, on a besoin de soutenir en toujours et encore plus nos membres dans ce mouvement-là.
Fait que là, vous autres, vous êtes ouverts.
On est ouverts pour soutenir nos membres, effectivement. Puis il y a des groupes qui ont fait le choix de soutenir le mouvement, mais de ne pas fermer. Il faut savoir que le mouvement du communautaire à bout, c'est un mouvement national qui est issu de la Mauricie. C'est la deuxième vague de mouvements, de grève. Puis, tu sais, on est conscient qu'avec les relations qu'on a avec le gouvernement, on ne s'attend pas à ce que la situation soit résolue le 2 avril. On l'espère, mais on n'est pas dupes non plus. On sait qu'il y a, avec le budget qu'on a eu la semaine passée, donc on s'attend à une troisième vague dans les prochains mois.
La clientèle, je m'excuse, j'ai l'air d'insister là-dessus, mais la clientèle des organismes en grève, on s'entend pour dire qu'elle est elle-même à bout, là, cette clientèle-là.
Ben, tout le monde est à bout.
Elle va-tu survivre à la grève?
Ben, en fait, nous, pourquoi on fait la grève? Pourquoi les, pourquoi les organismes font la grève? C'est que ce qu'ils nous disent, c'est que si on fait la grève là, pour avoir un meilleur financement, parce qu'on voit pas d'issue dans quelques mois, quelques années, que là, c'est peut-être la survie de l'organisme qui est en jeu, la survie de certains services dans les organismes, parce que le financement qui est pas suffisant pour répondre aux besoins, il n'y a pas les augmentations nécessaires pour répondre aux besoins. On le voit, là, dans les dernières années, les besoins dans tous les organismes qui sont autour de la table ont été en forte augmentation. T'sais, on le sait, là, depuis la pandémie, on répète toujours le même discours, mais ça a eu un grand impact dans le tissu social, puis dans la santé des gens, puis dans ce que les gens vivent, l'augmentation de l'épicerie, l'augmentation des logements. Puis les groupes, ben ils nous disent, on n'arrive plus. Il y a des groupes, hier, on en était en rencontre, qui disaient, on n'avait pas de liste d'attente avant. Pour nous, on a des listes d'attente maintenant. Fait qu'on voit l'avenir, puis nous, on dans notre principe d'organisme communautaire, on veut pas laisser des gens de côté. Mais on voit que dans quelques semaines,
alors
dans
c'est
quelques
pour les mois, gens laissés de côté, les gens qui sont ces listes d'attente que vous la faites la grève.
Et enfin, pour les gens dans 5 ans, 10 ans, qui vont venir dans nos organismes, on veut que nos organismes soient encore présents et capables de les soutenir. Ce qu'on craint qu'il va arriver, c'est qu'on va devoir couper dans des services. Puis certains organismes prévoient la fermeture carrément de leurs organismes.
Ah ouais. Puis on veut aussi la précarité de perdre nos employés parce qu'on manque de financement ou ce qu'on des fois on est obligé de les mettre à pied pour puis là ben c'est toute l'expertise qui s'en va, tout l'échange qui se fait entre le communautaire, c'est tout ça qu'on sent qui s'en vient puis c'est plate puis tu sais on est rendu le 24 puis j'ai des subventions qui ont même tu sais le 24 mars puis j'ai des subventions qui finissent le 31 mars puis il y en a qui ont même pas renouvelé encore, fait que je suis à une semaine puis ils nous ont pas encore envoyé rien d'information si les subventions vont être renouvelées là.
Il faut que j'aille aux publicités parce que nous aussi il faut continuer à être une station de radio qui fonctionne. Fait qu'on va aller aux publicités puis on va revenir immédiatement après.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présentent la bonne nouvelle économique.
ArcelorMittal Canada et le comité sectoriel de la
maintenance
de la métallurgie du Québec annoncent un partenariat afin de stimuler l'arrivée de femmes et d'enrichir le bassin de talents de l'industrie de la métallurgie. Dans un secteur où seulement 13% de la main-d'œuvre est féminine, leur initiative concrète vise à changer les choses, une cohorte à la fois. Le projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec verra 18 femmes en réorientation de carrière bénéficier d'une formation complète rémunérée pour intégrer l'industrie de la métallurgie au Québec. Le programme se déroule sur 6 mois, comprenant plus de 470 heures de stage en entreprise et incluant une formation de 15 semaines au Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes de Sorel-Tracy.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Vous êtes préoccupé par ce qui se passe chez vous?
La prise de conscience, ça s'est jamais faite à Ottawa en termes de perte du français, tant au Québec que dans le Canada.
Ne ratez pas la chronique du député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel, Louis Plamondon, tous les jeudis 7h15 dans Yahtzee Matin à CJSO.
À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon.
De retour à la tribune.
À l'émission ce midi, le communautaire à bout, mes invités Ando Andrianadi du Centre d'action bénévole du Barguichelieu, Marie-Josée Avril de la Porte du Passant, Mathieu Brochu de la Corporation de développement communautaire de Pierre-de-Sorel, Dominique Gosselin d'Action Logement Pierre-de-Sorel, David McDermott de la Maison de Jeunes l'Air du Temps et Nicole Teasdale de Justice Alternative Jeunesse. C'était comme ça que ça s'appelait avant Justice Alternative Jeunesse. Vous avez perdu votre jeunesse? Pas vous,
ben,
là, mais
l'organisme. Non, ben, peut-être moi aussi, mais en fait, oui, parce que comme nos services s'adressent autant aux personnes adultes, ben, on pourrait être encore plus inclusif des gens avec lesquels on travaille.
OK. Combien êtes-vous à avoir un emploi dans le secteur communautaire, dans Pierre-de-Sorel, de tout organisme confondu? Est-ce qu'on a ce chiffre? Mathieu, as-tu ce chiffre-là, toi?
J'ai pas le chiffre à jour. Les dernières nouvelles, c'était plusieurs centaines de personnes. Les statistiques nationales, c'est 12 personnes en moyenne par organisme. Fait qu'on a une soixantaine d'organismes. Fait que, tu sais, c'est plus de... C'est peut-être 700-800 employés.
Quand même.
Là, tu sais, puis c'est des c'est autant de bénévoles, tu sais, dans les organismes, parce qu'on a toujours entre 5 et 9 membres du conseil d'administration, déjà, minimalement, dans nos organismes. Puis, à part tous les autres bénévoles qui viennent dans les organismes.
Bon, là, je ne sais pas si ça va être une autre colle, là, mais salaire moyen.
Le salaire moyen, selon le national, au fond, on parle de 25 $ de l'heure dans le communautaire en ce moment.
Puis c'est vraiment insuffisant, là, tous les études le montrent, pour des postes comparables là, dans le réseau public ou dans les centres de services scolaires, pardon, c'est même pas comparable. On a plusieurs travailleurs là, qui frôlent ou qui vivent sous le seuil de la pauvreté, plusieurs qui n'ont pas d'avantages sociaux comme les assurances ou les régimes de retraite. Donc, ça met une précarité pour l'avenir de ces employés-là.
On entend dans les médias qu'il y a des gens qui travaillent pour les banques alimentaires qui, eux-mêmes,
exactement,
profitent des banques alimentaires.
C'est une réalité.
C'est
une réalité,
exactement. Oui.
Il est ce salaire-là que touchent les gens dans le monde communautaire déterminé par la capacité de payer, la capacité financière de l'organisme qui, elle, dépend largement du financement public. Par quoi vous êtes financé, les groupes communautaires?
Au fond, il y a différents types de financement, Sylvain. Nous, ce qu'on a, au fond, dans les organismes d'action communautaire autonome, c'est le PESA, qui est très, très connu, le programme de soutien aux organismes communautaires. Il y a aussi le SAQUE, il y a aussi le ministère de l'Éducation, etc. Si on veut se concentrer plus au niveau du PESA...
Moins près du micro.
PESA, on parle de... Tu sais, la ministre Rouleau parlait de 2,2 milliards là, qui a été injecté dans le communautaire, sauf que ce que les gens ne savent pas s'ils sont à l'écoute, c'est que c'est 60% seulement de ce 2,2 milliards-là qui a été injecté à la mission. Donc, si on fait une moyenne de base au niveau des organismes qui sont entre 4 500 et 5 000 organismes au Québec, on parle de 240 000 jusqu'à 290 000 en moyenne par organisme. On parlait tantôt, on fait le lien avec 12 personnes au niveau de l'équipe. Donc, si on fait le calcul en moyenne, là, c'est des peanuts là, au bout de compte qui sont alloués au salaire des gens.
Mathieu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, toi?
Bien, ça, c'est puis de là qu'on a le besoin d'aller chercher du financement ailleurs. T'sais, ce qu'on réclame, c'est un financement à la mission. Ndo l'expliquait, c'était quoi le financement à la mission. Puis on était obligé de compléter par des financements à projet. Fait que des projets, ben qui dit projet, dit date de début et date de fin. Puis c'est là qu'on perd notre expertise, parce qu'on a un projet pour un an, deux ans, trois ans, si on est chanceux. Puis, ben,
là, faut remplir le formulaire.
Faut remplir le formulaire de demande de projet. Ouais. Faut faire des réductions de compte, souvent, à demi-projet, de fin de projet. Et quand le projet finit, c'est Marie-Josée l'expliquait, là, tu sais, il y a des projets qui se terminent au 31 mars. On est le 24 mars, à une semaine de la fin. Puis elle n'a pas eu de réponse pour son renouvellement. C'est la réalité de plein d'organismes communautaires de ne pas avoir de date de prolongation de ces projets-là. Puis là, on perd notre expertise parce que pendant un an, deux ans, trois ans, on a engagé des gens. On les a formés. Ils ont développé leur expertise. Ils ont développé un lien de confiance avec les usagers. Et ces gens-là, ben, on est obligé de leur dire, ben, j'ai pas de nouvelles, puis je mets fin à ton contrat pour l'instant. Puis si j'ai des nouvelles dans quelques jours, quelques semaines, je te rappelle. Mais ces gens-là, ils ont besoin de vivre.
Est-ce que tu veux renchérir, Marie-Josée?
Bien, Mathieu l'a très bien expliqué, mais en plus, tout ce qui est par rapport aux appels de projets aussi, là, c'est qu'il y a du danger à perdre notre autonomie aussi. Mm-hmm. On est vraiment des organismes autonomes qui ont l'autonomie complète de son choix de mission et d'opérer. Fait que, puis, c'est là où c'est très, très important. Puis on a la chance aussi à Pierre-de-Sorel qu'on est très, très concerté. On est solide dans nos concertations pour être sûr qu'on ne dédouble pas nos missions par un appel de projet pour que deux organismes déposent un projet similaire. Fait que là, c'est tout de l'argent public qu'il faut. Fait que la force qu'on a, c'est vraiment nos tables de concertation qu'on peut au moins vérifier qu'on dédouble pas un service parce que c'est plate après ça. Tout est dans tout, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on est comme choisi par nos partenaires. Fait qu'il faut vraiment garder. Puis il faut aussi que les gens comprennent qu'on n'est pas des sous-traitants de l'État non plus. Là, on est vraiment autonome à prendre nos décisions. Puis on est régi par un conseil d'administration, évidemment. Mais on n'est pas, malgré qu'on répond aux besoins que l'État n'est pas capable de répondre, parce qu'ils savent très bien que le communautaire répond aux besoins qu'eux ne peuvent pas.
Mais vous êtes complémentaires.
Ben oui, mais souvent, il y a souvent des exemples que les gens pourraient penser qu'on est des sous-traitants de l'État alors qu'on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on se refuse aussi.
La particularité d'un organisme communautaire autonome, c'est lorsqu'il y a un besoin, il y a une mobilisation, puis c'est là qu'on va développer une action, une activité, un service. Alors, c'est important de dire que nous, on joue un rôle important au niveau du filet social parce que il y a une grande partie de la population qui vient dans nos organismes pour trouver de l'écoute, du soutien, de l'accompagnement. Et souvent, à défaut de trouver ce même service-là au niveau peut-être de l'État, parce qu'on le voit, l'État se désengage aussi et en fragilisant le financement. Donc, si on dit que le communautaire est à bout, il faut reconnaître que le Québec s'essouffle aussi. Le tissu social, on le voit, il y a des pressions sociales, il y a des pressions économiques. Alors, les gens vivent de plus en plus de pressions. Ils se tournent vers nos services. Et donc, on devient tout le monde à bout à ce moment-là.
David allait tantôt, dans la comparaison communautaire public. Ouais. Tu disais que, par exemple, le salaire ne se comparait pas avec celui versé par le secteur public. Exact. Pour un emploi comparable et à compétences égales. Il n'y a pas non plus chez vous, parce que je vais essayer de continuer dans sa comparaison entre le public et le communautaire, il n'y a pas chez vous non plus de protection d'emploi. Ça n'existe pas.
Effectivement. Puis, qu'est-ce qui est dommage avec tout ça, c'est que nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler chez nous parce qu'on a des salaires qui sont plutôt bas. Quand ils terminent leurs études, qu'ils ont leur diplôme, ils ont un emploi assuré dans le réseau. Donc, on perd notre expertise, comme Mathieu l'a dit. Nos membres perdent leurs intervenants qui ont créé des liens. Donc, c'est qu'à recommencer.
Il n'y a pas non plus de régime, je continue mes comparaisons, il n'y a pas non plus de régime de retraite chez vous dans le communautaire.
Certains organismes peuvent se le permettre, mais c'est pas tout le monde.
Exactement. C'est pas à la hauteur. C'est pas la hauteur. C'est parce que les avantages sociaux dans le réseau public, dans le réseau de la santé et de services sociaux, c'est presque 30% de valeur monétaire. Tu sais, ce que la portion que l'employeur paye tu sais, dans le régime de retraite, dans les assurances, ça peut valoir jusqu'à 30% de salaire supplémentaire. Donc, c'est énorme. Fait que déjà, on a des salaires moindres. Des fois, on est chanceux d'avoir un programme d'assurance collective ou d'un régime de retraite, mais qui n'est pas à la hauteur du régime de retraite public puis du programme d'assurance collective qu'ils ont dans le réseau public. Fait qu'on est, tu sais, dans les plus chanceux en don.
Oui, mais vous avez, Mathieu, puis vous six, là, néanmoins préféré le secteur communautaire au secteur public. Pourquoi faire le choix conscient du secteur communautaire, sachant que les conditions qu'on y retrouve accote pas celle du secteur public?
Par conviction, par valeur, de croire que la communauté a un rôle à jouer puis qu'on peut se réapproprier des actions. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a menée il y a 41 ans et c'est ce qui me motive encore à rester dans le communautaire. Il y a une possibilité de développer une souplesse, on peut être agile, on est tout en ayant des services qui sont de qualité avec du personnel formé. Mais je vais vous le dire, on a notre autonomie, c'est une liberté d'action pour vraiment répondre aux demandes parce qu'on est connecté sur la communauté, on est enraciné dans la communauté. Alors ça, en tout cas, moi, à mes yeux, ça n'a pas de prix.
Toi, Dominique, tu as l'air d'avoir le goût de répondre à ça. Pourquoi avoir choisi le communautaire plutôt que le secteur public où tu aurais eu un meilleur salaire, tu aurais eu une protection d'emploi, tu aurais eu un régime de retraite? Je ne veux pas te faire broyer, là, mais non. Pourquoi néanmoins avoir choisi le communautaire?
Non, c'est un choix. Puis ici, tantôt, avant d'entrer en onde, on se demandait justement qui était le plus vieux et le plus jeune de la gang. Fait quand on regarde autour de la table, là, c'est des gens qui sont là puis depuis longtemps. Donc, c'est un choix qu'on fait puis on croit en ce qu'on fait. Ce qui fait que c'est pas c'est une passion, c'est ça, c'est de la passion pour aider les gens qu'on a, nous, dans le communautaire. Puis c'est pas parce qu'on a choisi cette voie-là qu'on est obligé de nous imposer d'autres choses là, qu'on n'est pas à l'aise. T'sais. On veut nous pousser vers aller chercher du financement privé, aller chercher du financement, peu importe la... Déjà qu'on manque de temps. Faire de la reddition de comptes puis faire des demandes de subventions, ça demande beaucoup de temps en partant. Fait qu'on n'a même pas le temps de le faire souvent. Puis on n'est pas sûr qu'on va l'avoir. Fait que ça demande beaucoup. T'sais, est-ce qu'on a demandé, mettons là, un exemple, est-ce qu'on a demandé en négociation avec les infirmières ou les médecins d'aller chercher un financement privé pour qu'eux aient plus d'argent? Ça n'a pas été fait. T'sais, est-ce qu'on va voir un médecin avec un logo de cigarette sur... quand il va travailler ou une enseignante avec un logo de bière, pour se financer plus adéquatement, ils ne le feront pas. Mais nous non plus, on a des compétences, puis je pense qu'il faut les reconnaître et non pas nous imposer.
Amdo, je t'ai coupé le sifflet là, tantôt. Là. Vas-y donc.
Mais non, j'avais plusieurs éléments au fond, mais pour répondre à ta question, Sylvain...
Pourquoi tu as choisi le communautaire,
oui,
toi?
C'est par conviction, comme Nicole disait, au niveau des valeurs. Moi, je pense qu'en travaillant dans le communautaire, on fait une énorme différence dans la vie des gens. Et c'est par ce type de choix-là que je pouvais travailler dans une institution financière ou un milieu politique, mais je voulais faire une différence réelle dans la vie de ma communauté.
Nicole?
Ce que j'étais pour dire, c'est que souvent, oui, le communautaire, ce qui est dit de nous, c'est qu'on fait beaucoup avec peu. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est à bout. Parce qu'on est des gens de cœur, on est des gens impliqués, on essaye, mais il y a des limites qu'on en atteint. Et là, on arrive à ces limites-là de dire, bien, on a beau là, vouloir en faire plus, mais on ne peut pas y arriver parce que ça nous prend le fameux financement. Moi, j'oserais dire, ça fait 41 ans que j'attends qu'on soit vraiment reconnu par le gouvernement. Et obtenir le financement dont on a besoin. Ça fait 41 ans qu'on en fait des revendications. C'est pour ça que le mouvement, le communautaire à bout est tellement important, parce que là, je sens que ça fait une différence quand on voit que dans 17 régions, même à l'heure où on se parle, il y a des gens qui sont comme nos collègues devant la Maison de jeunes en train de se mobiliser, de manifester. Là, il y a un vent de changement pour qu'on arrête de nous dire « Vous êtes bon, vous faites beaucoup avec
nous. » Je pense que vous faites trembler le gouvernement actuellement, là? Il y a un petit frisson, en tout cas.
En fait, peut-être pas aujourd'hui nécessairement, ouais, mais tous les gens qui ont besoin de nous au quotidien, puis qui nous suivent dans les manifestations et tout, puis qui vont être appelés à aller chercher de l'aide ailleurs, ben c'est les ailleurs qui vont chialer qu'on n'était plus là.
Puis j'ajouterais qu'on a une ministre responsable de l'action, oui, communautaire au gouvernement, et hier, elle a donné plusieurs entrevues pour répondre aux communautaires à bout et parler au nom du gouvernement. Il avait beaucoup de difficultés à chiffrer la valeur du communautaire actuellement, là, tu sais, pas le 2 milliards sur 5 ans, là. Combien, dans le budget 2026-2027, il y a réellement d'investissement à la mission ou pour les organismes? Et c'est la ministre qui est responsable de notre secteur, et elle a discuté à comprendre notre réalité. Elle n'est pas à l'écoute de nos besoins. Elle nous disait aller chercher du financement ailleurs. Et comme Dominique le disait, on ne demande pas aux autres gens d'aller chercher du financement ailleurs. Elle a dit développer d'autres formes de financement. Mais non, c'est un financement à la mission qu'on a besoin.
Faut que j'aille chercher du financement. Fait qu'on va au pub, puis on revient tout de suite après.
Entrepreneur, vous avez entre 18 et 39 ans et un projet d'affaires en tête? Que ce soit pour le démarrage, la croissance ou encore la relève d'une entreprise existante, Stratégie Jeunesse est là pour vous. Avec un financement souple combiné à un accompagnement personnalisé et un soutien pour réussir ici, en région, Stratégie Jeunesse prend votre audace au sérieux. Prenez rendez-vous avec un conseiller à la SADC Pierre de Sorel sans plus tarder.
Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie la SADC.
Le printemps arrive en grand chez Olivier Hyundai Sorel-Tracy. Envie d'un vent de fraîcheur et de renouveau? Chez Hyundai, les rabais sont gros. Les 23, 24 et 25 mars, c'est le moment de l'année à ne pas manquer pour changer de voiture. Obtiens le maximum en échange pour ton véhicule et profite de rabais allant jusqu'à 18 000 $ sur certains modèles, en plus d'un taux de financement à partir de 0 %. Réserve ta séance de magasinage maintenant. 450-743-1244. Olivier Hyundai Sorel-Tracy, la vraie vie est ici. Certaines conditions s'appliquent.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
à CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, je suis en compagnie de Dominique, de Mathieu, d'Ando, de David, de Marie-Josée et de Nicole pour parler de ce grand mouvement là, pan-québécois, le communautaire à bout. Les services rendus par le secteur communautaire coûtent moins cher à l'État que les services rendus par le secteur public. L'État y voit un intérêt. Hein? Il voit un intérêt, mais vous ne pensez pas... Attends, ma question, tu vas voir le temps d'y répondre. Le réinvestissement que vous réclamez, je joue l'avocat du diable, hein, OK? Le réinvestissement que vous réclamez pourrait jouer négativement sur l'intérêt que voit l'État dans le communautaire, non? Il s'intéresse à vous parce que vous coûtez moins cher, vous rendez d'excellents services, mais ça coûte moins cher. Si vous avez les mêmes conditions que dans le secteur public, quel est l'intérêt à aussi bien tout donner dans le secteur public, non?
Mais, au fond, j'aimerais faire un rappel à l'ordre, Sylvain, parce que tout le monde en parle, c'est un drôle de jeu de mots, mais on parlait de 1% du budget de l'État, le 2,2 milliards. Fait que c'est un choix stratégique comme société, comme collectivité, comme région. Et le Québécois et les Québécoises doivent faire un choix, c'est d'investir dans notre communauté, dans le filet social. Donc, c'est tout ce qu'on demande, au fond. Puis 1% versus tous les autres, le reste, là, qui est un 99%, c'est pas beaucoup. Si on parle de...
Ce serait encore pas cher payé.
Non, effectivement. Mmh. Si on fait une corrélation avec une personne sur trois au Québec qui a besoin des services communautaires, on parle de 3 millions de Québécoises et Québécois, Sylvain. Donc, il y a vraiment un gros lien à faire là-dessus au niveau du budget versus les utilisateurs de services au niveau national.
Nicole?
Bien, en fait, justement, le gouvernement devrait reconnaître l'expertise du communautaire et d'investir, comme Endo le dit, dans les groupes communautaires. Il aurait un avantage parce qu'on ne revendique pas avoir les mêmes budgets que la fonction publique. Ce qu'on demande, c'est on est à peine à 1%. Alors, c'est pas ça. On veut pas se transformer. On n'est pas, Marie-Josée le disait, on n'est pas des sous-traitants. On veut garder notre essence. On ne sera jamais comme le réseau public de par les valeurs de participation citoyenne, de par notre autonomie. Mais ce qu'on veut, c'est être reconnu à la hauteur des services que l'on rend dans la communauté.
Je vous offre à tous les six là, un 5 minutes là, pour vous défouler. À part le fric qui n'est pas au rendez-vous, ça, je comprends. Il y a un manque à gagner. Bon, le manque à gagner, vous le chiffrez à 9,4 millions là, dans Pierre de Sorel.
Ça, c'est juste au niveau des groupes en santé et services sociaux.
Oui, tu as raison. Santé et services sociaux, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Bon, à part le fric, qu'est-ce qui vous rend à bout? Défoulez-vous. De quoi n'êtes-vous plus capable?
Je pense, pour ma part, ce qu'on vit au Centre d'action bénévole du PHLE, les demandes augmentent. Et ça augmente d'année en année. Et notre équipe espère épuisée à répondre à toutes ces demandes-là. On manque de ressources. Oui, je reviens toujours au fric, mais il y a un gros lien dans le sens où il faudrait grossir l'équipe et on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de grossir l'équipe parce qu'il nous manque l'argent. Fait que je reviens toujours là-dessus.
C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre.
Bon. Il y a énormément de roulement de personnel aussi parce qu'on n'offre pas les meilleures conditions de travail versus le privé ou versus le réseau. Donc, je dirais que c'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte qu'on est au bout.
Puis c'est le choix déchirant que des fois, on peut pas desservir tous les demandes et puis qu'on doit choisir, c'est comme choisir entre deux personnes, et c'est dur de choisir entre deux personnes. Prends juste pour, comme moi, à la porte passante, pour les gens qui viennent héberger de nuit, à date, on a toujours répond à la demande parce qu'on a l'espace grandement. Mais en réalité, je suis financée pour 10 lits. Fait que quand j'en ai 30 qui viennent dormir, ces 20-là, j'ai pas de financement pour ceux-là, mais c'est le cœur qui embarque. Sauf que jusque où qu'on va accepter le cœur, si on les empêche de venir, c'est déchirant. Mais si on le fait pas, ils vont dire, ben, c'est comblé, on n'en donnera pas de financement. Fait que c'est tout ça, le pour et. Et puis, il faut le dire, en fait, nous, je l'ai dit hier, puis je le répète, c'est vu à cause qu'on, justement, ou grâce à notre autonomie, le conseil d'administration et moi, on est en train de regarder, puis les financements qui vont venir prochainement, mes services vont être en lien avec les sommes qu'on reçoit. On ne baissera plus les avantages. T'sais, on va aller vers des avantages sociaux. On va aller, tu sais, à 38 employés, là, quand on demande. Quand je passe des entrevues, là, faut que je sois très, très imaginatif pour dire, viens travailler avec nous parce que j'ai rien à t'offrir. Mais bref, que c'est tout ça où ce qu'on veut renverser la mesure. Puis oui, on va se servir d'une autonomie. Puis oui, on va signer des ententes. Puis on va retourner, avant de la signer, l'entente, on va leur dire, ben ça, ce bout-là, on le prend pas. On l'enlève dessus, l'entente, là. Il faut qu'on garde notre autonomie. Puis c'est le virage que le conseil d'administration l'information et nous, en fait, par notre autonomie.
Quelqu'un d'autre veut parler de son ras-le-bol, là? Oui. David, vas-y. Oui.
Ben, moi aussi, je vais en revenir au fric, malheureusement. C'est vraiment le nerf de la guerre. Pour offrir des conditions à mes employés que je puisse les garder, je dois faire des projets pour pouvoir bonifier leur salaire, leurs heures de travail. Pour ça, c'est de la recherche de financement, c'est de la reddition de comptes. C'est plein d'heures que je mets là-dedans, que j'ai pas le temps pour ma mission pendant ce temps-là. C'est des heures qu'on calcule plus. C'est tout ça pour avoir une équipe pour répondre à nos membres. Donc, c'est ça.
Quelqu'un d'autre? Dominique?
De notre côté, c'est sûr que c'est la non-volonté du gouvernement d'aider les gens à faible revenu. Et encore plus la crise du logement. On l'a vu dans le dernier budget. C'est pas 1000 logements dits abordables sur 3 ans qui vont aider. Puis le fait que les gens payent entre 80 et 110 % de leurs revenus pour payer le logement, c'est sûr qu'ils vont voir Endo, ils vont voir Marie-Josée, ils finissent par avoir des problèmes de gestion partout. Fait que ça fonctionne pas, ça. C'est difficile, faut se battre contre ça.
Il nous reste 2-3 minutes, je vais aller sur les activités de mobilisation de la campagne. Au moment même où nous sommes, nous en studio, il y a de l'autre côté du boulevard Gagnon, la Maison de Jeunes, un rassemblement. Vendredi 27, il y a un certain nombre d'entre vous qui allez à Longueuil.
Exactement, il y a une marche qui est organisée pour la Montérégie à Longueuil vendredi à 11h30. Donc, il y a certains groupes de Pierre de Sorel qui y vont. Puis, il y a d'autres activités qui s'en viennent.
Il y a une grosse marche le lundi 30, une marche qui va partir de Dérenlot, qui va aller vers le bureau du député Jean-Bernard Raymond.
Effectivement, on attend les gens pour 9h30 lundi matin, donc on part à partir du
71
Ramsey, au centre d'Hérenlot. On va au fond faire le tour là, du centre-ville en passant par la rue Charlotte, la porte du Passant, le groupe d'entraide Larico, le centre d'action bénévole, le centre Sacré-Cœur, pour ensuite se converger vers le bureau du député Jean-Bernard Raymond où il va avoir une manifestation.
Jeudi 2 avril, je suis toujours la semaine prochaine, voyage organisé pour Québec en vue d'une
grande mobilisation
manif devant l'Assemblée nationale.
Grande mobilisation devant l'Assemblée nationale. Alors, on va, les 17 régions du Québec vont se réunir. On sait déjà, présentement, je regarde mes collègues, 2 autobus et possibilité d'une troisième.
Donc, ah oui, 3 autobus.
Tout à fait. Alors, ça montre la mobilisation. Plus des voitures, des gens qui vont.
Il va y avoir plus d'une centaine de personnes qui vont représenter Pierre de Sorel à la mobilisation devant l'Assemblée nationale. Du 2 avril, puis c'est des milliers de personnes d'à travers le Québec, d'à travers les 17 régions, des dizaines d'autobus de partout au Québec qui convergent vers l'Assemblée nationale.
Vous devez être fier, on finit là-dessus, là. Vous devez être fier de la mobilisation. Moi, j'ai été impressionné lundi, là, je suis allé à la conférence de presse à la porte du Passant. Les locaux étaient pleins à craquer. Je t'ai même dit en arrivant, Marie-José, y avait-tu aussi de ta clientèle, là? T'as dit 2-3. Alors, c'était tous toutes des travailleuses et travailleurs du communautaire qui étaient là. Et...
Oui, il y avait 105 personnes. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de les compter. On remercie Valérie.
Oui,
Vanessa, ouais, c'est ça. Il y avait quand même 22 organismes. Il y avait le regroupement de la CDC, évidemment, qui était là. Fait que vraiment...
Puis moi, je veux dire, je suis très fier des membres de la CDC qui sont mobilisés. C'est un mouvement qui est issu des groupes de base, les groupes qui donnent des services aux citoyens, qui est né en Mauricie, puis il y a une grande mobilisation de ces groupes-là, tu sais, puis on n'a pas eu à les mobiliser puis à les convaincre. C'est eux qui nous ont dit hey, « on a besoin de l'aide de la CDC, on a besoin du soutien », puis tu sais, c'est ce qu'on est fiers de cette mobilisation-là des groupes, puis on sent que la mobilisation grandit de jour en jour, d'heure en heure.
Ça veut dire qu'il y avait vraiment, il y a vraiment du monde à bout, là. Tu sais, pour que le monde sorte comme ça, là, il y a un cri du cœur actuellement, le pan-québécois, là.
Exactement, c'est ça.
Ben, il faut vraiment, parce que si on continue comme ça, il va y avoir des organismes qui vont fermer. Puis présentement, il y en a des organismes qui vont être obligés de fermer. Ou c'est tous les gens qui vont être localisés dans les autres organismes qui vont être encore ouverts. Ou ce qu'on va devenir de plus en plus avec des besoins de plus grands s'il y a des organismes qui ferment. Là.
Ou qu'il y a des gens qui vont être laissés pour compte puis qui vont se retrouver sans soutien, sans accompagnement.
Il reste 30 secondes, David.
Ben, pour faire du pouce sur Mathieu, c'est vrai que c'est une mobilisation qui vient des membres et non pas des regroupements. Puis ça, c'est vraiment historique. Une telle mob de tous les groupes de base. Donc, je suis fier de ça.
On est vraiment fiers de la
campagne. On est fiers. Oui.
On est rendu déjà au bout de l'émission. Alors, merci d'y avoir participé. Ando Andrianadi, Marie-Josée Avril, Mathieu Brochu, Dominique Gosselin, David McDermott et Nicole Teasdale. Merci beaucoup. Et à la maison, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre tribune. Salut!